Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Pascal Masirika.
Alaïne ce midi sur Radio Okapi, réédition de 600 miliciens, 328 armes déposées et une centaine de collaborateurs de rebelles ougandais de la DEF arrêtés. Bilan des opérations militaires menées par les FARDC durant l'état des sièges, annonce le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu. Début ce lundi à Lubumbashi du contrôle en vue du respect des mesures de lutte contre le coronavirus. Le maire de la ville brandit la menace d'incarcérer pendant une semaine les récalcitrants. Notre invité, c'est le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, parlait des enjeux sur la riposte contre la pandémie du coronavirus et des pistes et des solutions pour éviter les grèves à répétition dans son secteur. Madame, messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, plus de 600 miliciens se sont rendus, 328 armes déposées et une centaine de collaborateurs de rebelles ougandais de la DEF arrêtés. C'est le bilan des opérations militaires menées durant l'état de siège. Ces chiffres ont été communiqués ce week-end par le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu lors d'un point de presse à Beni. Le général de brigade Sylvain Ekenge rassure que ceux qui critiquent ne trouvent pas leur compte dans ce qui se fait actuellement. Ces propos ont été recueillis par André Kitenge.
Aujourd'hui, nous sommes à plus de 625 parce qu'il y en a qui sont sortis hier, qui sont encore à Masisi. L'essentiel qu'on sorte, c'est jeunes gens, ces Congolais qui se sont égarés, qui viennent, qui déposent les armes et on va les prendre en charge. Je vous informe qu'il y a 328 armes qui ont été déposées par les groupes armés et les gens ne sont pas contents. Il y a à peu près 600 membres des groupes armés qui ont été neutralisés. Tout groupe armé confondu. Ça, c'est pour les groupes armés locaux. Pour les FDLS, on est arrivé à quelque chose comme 30 FDLS qui ont été neutralisés. Neutralisé pendant l'état des sièges. Et vous savez que c'est un travail qui s'est fait avec le secteur opérationnel sous Kola de Nord Kivu. Depuis le 6 mai, 145 collabos arrêtés ici. Et ce sont de cellules dormantes des ADEF. Il y a 10 véhicules et 15 motos de l'ennemi saisis ici, dans les territoires de Beni. Vous voyez que les gens n'aiment pas l'état des sièges. Alors qu'ils en ont demandé, et aujourd'hui, ils veulent qu'on en finisse, parce qu'ils ne se retrouvent plus dans les aventures des fraudes et dans ce qu'ils font dans le soutien des groupes armés.
Le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et le droit de l'homme, CEPADO, condamne ces pertes en vies humaines. Selon son dernier bulletin d'information publié ce lundi, au moins 75 civils ont été tués en l'espace de 2 semaines dans les territoires de Beni et dans celui d'Irumu en Ituri. Pour les CEPADO, les attaques perpétrées ce jour-ci par les rebelles ougandais de la DEF ont pour objectif d'inciter la population à s'opposer à l'état de siège. Il demande par conséquent à cette dernière de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi et de continuer à soutenir les FARDC dans leurs opérations pour mettre un terme à ce massacre. En Ituri, pendant 7 ans, 2 personnes ont été tuées, d'autres enlevées et 10 des maisons incendiées lors d'une nouvelle attaque attribuée dimanche aux présumés rebelles ougandais de la DEF au village de Mabelenda dans les territoires d'Irumu. Des sources locales déplorent l'activisme de ces rebelles ougandais qui ont tué 10 civils depuis plus de mois. La société civile locale rappelle au gouverneur de province sa promesse de pacifier la zone. Pour en parler, retrouvons à Bounia Ezekiel Mouzalia.
Un groupe de ces rebelles a pris d'assaut cette localité dimanche vers 14h au village Mambelenga dans la chefferie de Walese Vonkutu sur la RN4 au sud du territoire d'Irumu. D'après le secrétaire du bureau de la société civile, Diedoné Malangayi, 2 civils qui revenaient du champ ont été abattus par ces hommes. Ces derniers ont également incendié 15 maisons. Plusieurs habitants ont fui dans les localités voisines telles que Otomaber et Maimunde à l'ouest du lieu du drame. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, ajoute que d'autres habitants, sans préciser le nombre, ont été pris en otage par ces fugitifs au village voisin de Mutuei. Après ce forfait, l'ennemi s'est retranché dans la brousse aux alentours de Maimunde, Taubamba et Manzebi. Des sources locales demandent aux services de sécurité de redoubler des vigilances pour déjouer une probable attaque de ces rebelles. L'ONG CRDH lance un appel au gouverneur des provinces de concrétiser sa promesse faite la semaine dernière lors de sa mission dans la zone d'imposer la paix dans ces territoires. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au sud Kivu, pendant ces temps, 6 miliciens Maïmaï d'un groupe armé bouirois ont été neutralisés par les FARDC lors d'une opération militaire menée le week-end dernier dans la chefferie de Bafouliru, en territoire d'Ouvira. Le porte-parole des FARDC ajoute que cette opération a été menée à Rudaga et dans les villages de Ruhuko et Kanga, dans les hauteurs de la localité de Luberizi. Le récit de Fiston Gomamayabala.
Dans un communiqué, le FARDC affirme avoir attaqué plusieurs sanctuaires de miliciens Maïmaï Bouiroua dans les hauteurs du groupement de Luberizi. Jusque ce dimanche, les combats se poursuivaient dans la localité de Rudaga, Ruoka et Kanga. Les éléments du colonel Adago Ibrahim, commandant du 3304e régiment, ont réussi à mettre en déroute les assaillants. Ces derniers venaient de voler des vaches dans le village d'Engendo. Bouiroua est réputé dans la région de recruter des ressortissants burundais pour opérer dans la plaine de la Ruzizi et le moyen plateau d'Ouvira. Les sources locales affirment que le vol de vaches à répétition appartenant à certains notables du groupement de Luberizi, la récente attaque contre une agence de transport d'un fils de ce même groupement, ainsi que d'autres bavures, dont l'enlèvement des chefs locaux de Nyamuturi et Kigwena, auprès de qui ces chefs de guerre bénéficiaient de l'hospitalité, ont excité les jeunes local défense de les livrer. Le commandant secteur opérationnel Sokolade au sud du sud Kivu, le général François Mukalai, salue la collaboration de ses troupes avec la population civile dans cette opération de traque de miliciens. Il réitère son appel à tous les groupes armés de revenir au bon sentiment en déposant les armes. D'Ouvira, Fiston Mamayabala, Radio Kapi.
Autre nouvelle en plus bref, le président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, est en ce moment dans un état stable et poursuit les soins médicaux en dehors du pays, contrairement à ce qui a été publié récemment dans les réseaux sociaux et dans certains médias qui annonçaient son décès. Déclaration faite ce dimanche après-midi par le responsable de ce parti politique de la province du Haut-Katanga. C'est le week-end dernier, en effet, qu'Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza a été évacué pour des soins médicaux à l'étranger. Et puis, c'est ce lundi que les mesures contraignantes de lutte contre le coronavirus prises le week-end dernier par le maire de Lubumbashi entrent en vigueur. Les contrevenants s'exposent au paiement des amendes et à l'incarcération pour une durée de 7 jours. Radio Kapi Lubumbashi, Jean Gandou.
À Lubumbashi, le coronavirus fait des ravages. Le cimetière de Kasangiri, le plus cher de la ville, a enregistré pour le mois de juillet dernier plus de 250 corps. Que dire alors de ceux considérés comme étant le moins cher, se demande le responsable des services d'inhumation à la mairie de Lubumbashi. Et la plupart des décès sont dus au coronavirus, signale le source médicale. Et pour y faire face, le maire de Lubumbashi a, dans un communiqué rendu public le week-end dernier, pris un certain nombre de mesures, notamment le port correct et obligatoire des cache-nez, la fermeture des salles de fête qui accueillent les cérémonies de mariage et autres. Le non-port des masques est désormais sanctionné par le paiement d'une amende de 15 000 francs congolais. En cas de résistance, le contrevenant pourra être arrêté pour une durée de 7 jours. Justicia Esbel, une ONG de défense des droits de l'homme, estime que la peine d'emprisonnement de 7 jours telle qu'est préconisée par la mairie de Lubumbashi n'est pas conforme à la loi. Maître Jonas Mulumba, un des cadres de cette ONG.
Donc il faut préalablement qu'il y ait une loi pour qu'on puisse considérer qu'un acte X est un acte infractionnel. Et le non-port de masque, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas constitutif d'une infraction. Donc le maire de la ville, il devait se limiter uniquement aux amendes transactionnelles pour tout celui-là qui sera trouvé sans masque.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et au Kasaï central, le gouverneur intérimaire a décrété à partir de ce lundi un dépistage obligatoire contre la pandémie du coronavirus. La décision a été rendue publique le week-end dernier par le ministre provincial de la Santé publique. D'autres organisations locales plaident pour le renforcement du système sanitaire. À Kananga, une correspondance de François Kadima.
À en croire ce communiqué officiel, l'opération concerne les agents et fonctionnaires de l'administration publique, les institutions provinciales, des banques, des cours et tribunaux, la mairie de Kananga et les 5 communes de la ville. Après ce dépistage, il sera suivi de la désinfection des édifices cités. La décision est prise dans le souci de lutter efficacement contre la pandémie en province et plus particulièrement dans la ville de Kananga, indique l'autorité provinciale. Les dernières données des sources médicales indiquent que la province est à plus de 130 cas, alors qu'il y a deux semaines, la division provinciale de la santé avait avait annoncé dans une communication de presse, ce sont 10 cas déjà enregistrés. Pour une gestion efficace et efficiente de la riposte contre la maladie, certaines organisations, notamment la Société congolaise pour l'état des droits, plaident également pour le renforcement du système sanitaire, l'approvisionnement des infrastructures sanitaires en intrants pour éviter la rupture de stock. Elle encourage par la même occasion la population à la prise de conscience face à cette maladie liée au coronavirus et à respecter scrupuleusement les mesures barrières contre la maladie. De Kananga, François Kadima, Radio Okapi.
Plus de 40 maisons écroulées, une centaine de ménages sans abri et des blessés et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan d'un vent violent qui a soufflé vendredi soir sur les villages de Ngolombeke et Nkonde dans le territoire d'Inongo, dans la province du Maïndomé. Le chef du village plaide pour l'assistance des sinistrés, c'est ce que nous explique Irène Mboma.
Au total, 49 maisons ont été écroulées, dont 16 en Kolombeke et 33 en Kondé, des villages situés respectivement à 33 et à 35 km de la ville d'Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombe. Cela à la suite d'une forte pluie accompagnée d'un vent violent qui s'est abattu sur cette contrée vers 1h du matin du samedi 7 août en cours. Selon les chefs de la localité Nkonde Banchantoli, aucune perte en vie humaine n'est signalée, sauf quelques blessés et la perte de plusieurs biens matériel. La même source rapporte également que plus de 100 ménages ici de ces maisons détruites sont sans abri et passent nuit à la belle étoile. Bantantoli plaide auprès des autorités, tant nationales que provinciales, et de toute personne de bonne volonté afin de penser aux sinistrés de cette catastrophe naturelle pour la reconstruction de leurs maisons. Il convient de signaler qu'en dehors des maisons des particuliers écoulées, il y a aussi des établissements publics, notamment l'école primaire Likela et les postes de santé Nkonde au village Nkonde qui ont été endommagés. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la hausse de prix du carburant dans la ville de Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï-Oriental. Le litre d'essence qui s'est vendu il y a une semaine à 2800 francs congolais coûte actuellement 3300 voire 3500 francs congolais. La Fédération des entreprises du Congo FEC justifie cette hausse de prix par le réajustement des prix d'achat des produits pétroliers dans la ville de Lubumbashi. Explication d'Esther Dalafina.
Cette hausse n'a pas entraîné des répercussions sur le prix des transports, ni des produits vivriers et même sur les produits manufacturés. Les importateurs de produits pétroliers justifient cette hausse par le réajustement des prix d'achat dans le Haut-Katanga. Willa Bukasa, premier vice-président de la FEC Kasaï Oriental et Lumami.
Un élément de révision à la hausse du prix d'achat qui entraîne la révision à la hausse au niveau du prix de vente.
L'augmentation récente du carburant n'est pas liée à la rupture des stocks, moins encore au processus d'approvisionnement. Les importateurs affirment que le Kasaï oriental s'approvisionne à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Les effets de la hausse ou de la baisse que subissent ce produit à l'achat entraînent souvent les fluctuations des prix sur le marché de Mbujimayi, comme explique encore le premier vice-président de la FEC.
La structure de prix qui a été a réduit à la hausse le prix à la pompe au départ de Lubumbashi. Et comme on provisionne par l'axe sud qui est Lubumbashi, cela doit avoir eu des frais d'entraînement.
Signalons que depuis la hausse de prix de carburant, aucune rupture des stocks n'est signalée sur le marché. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Libye, des très nombreuses incertitudes pèsent actuellement sur l'organisation des élections générales projetées pour le 24 décembre prochain. L'ONU tente d'établir leur cadre juridique, mais se heurte malheureusement au chaos des institutions du pays. Les divisions persistent entre les parlementaires du pays sur les conditions à remplir par les candidats. Des désaccords persistent également au sein du Forum de dialogue politique libyen. Pendant ces temps en Éthiopie, des partisans du gouvernement se sont rassemblés pour dénoncer une ingérence étrangère. Hier dimanche après-midi, des milliers d'Éthiopiens pro-gouvernement ont protesté vivement contre des vives critiques internationales dont l'Éthiopie a été victime récemment suite au conflit qui a éclaté en novembre dernier dans la région dissidente du Tigré.
L'invité.
Notre invité, c'est le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, parle des enjeux sur la riposte contre le coronavirus et des pistes et des solutions pour éviter les grèves à répétition dans son secteur. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
Monsieur le ministre Jean-Jacques Mbungani, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous commençons par l'actualité. Vous avez réceptionné un lot de matériel d'une valeur de près de 15 millions de dollars. Cela a été financé par la Banque mondiale. Alors, monsieur le ministre, quelle est l'incidence de ces dons dans la riposte du gouvernement contre la pandémie COVID-19 en RDC?
Beaucoup d'abord, je remercie Radio Okapi pour l'intérêt que vous accordez à la situation en République démocratique du Congo. Effectivement, le ministère de la Santé publique, jeunes et prévention a reçu un don à travers le mécanisme de la Banque mondiale d'une valeur de plus de 14 millions de dollars qui est destiné pour renforcer le système sanitaire dans notre pays et également contribuer efficacement à la lutte contre la pandémie COVID-19. Vous savez réellement que cette maladie a endeuillé toute la planète avec plus de 4 millions de morts. L'Afrique a été également touchée et la RDC est à la troisième vague depuis le 13 mai de cette année. Au regard des nombres grandissants, des cas positifs à la COVID et également des décès. Nous sommes aujourd'hui à 51 054 cas. Aujourd'hui, à ce jour, des cas cumulés depuis le 10 mars 2020, nous sommes à 1045 décès. Il est important que nous puissions aider efficacement les populations à résister contre cette pandémie et le don de la Banque mondiale vient vraiment à pied levé pour aider le système sanitaire de notre pays.
Et vous prenez aussi la sensibilisation, monsieur le ministre. Où est-ce qu'on en est, non seulement à Kinshasa et au niveau des provinces? Est-ce que cette activité est très importante, continue? On va parler bien sûr de la vaccination après.
Ben, d'abord, la sensibilisation est importante parce qu'il faut communiquer. Nous avons eu le problème sur tout le continent africain et même au niveau mondial, c'était d'abord de la compréhension de la maladie. Beaucoup de les gens n'ont pas cru à la maladie quand elle a commencé en décembre 2019, mais maintenant qu'une bonne pédagogie de la pandémie COVID-19 est ancrée dans les mentalités, les gens connaissent la maladie, connaissent les risques de maladie, maintenant les gens acceptent l'intérêt de la vaccination. Vous devez savoir que maintenant la vaccination est considérée comme un élément de la riposte. À ce jour, nous avons vacciné plus de 81 000 personnes et nous espérons avoir des lots de vaccins à la mi-août, nous permettant de redémarrer la campagne de vaccination pour atteindre 25% de la population cible.
Monsieur le ministre, on ne peut pas terminer cet entretien sans pour autant parler d'un sujet brûlant de l'heure. Il s'agit de la grève des médecins. Et à ce sujet, vous avez eu à signer un protocole d'accord, donc le gouvernement d'un côté et les banques syndicales de l'autre. Alors, maintenant que les protocoles d'accord a été signé, quelles sont les assurances maintenant que les médecins vous donnent qu'ils ne vont pas continuer à débrayer, d'autant plus qu'on sait qu'il y a d'autres revendications qui demeurent?
Non, d'abord, je suis heureux d'annoncer que la grève de médecins a pris fin. Après des longues négociations avec le bon syndicat des médecins, nous avons signé un accord. Les médecins ont repris le travail, mais les médecins étant des fonctionnaires comme tout autre fonctionnaire de l'État, il y a des secteurs également qui ont émis des revendications. Il s'agit, ce que nous apprenons ici, du personnel de santé non médecin. Nous sommes en discussion avec ce secteur de la santé. Nous avons évolué. Nous vous rassurons que toutes les mesures sont prises pour éviter des prochaines grèves telles que nous avons connues avec le secteur des médecins.
Comme si les problèmes n'en finissent pas, et il y a aussi la grève des infirmiers. Comment vous allez résoudre tous ces problèmes, monsieur le ministre?
Non, quand je parle de pro-santé non-médecins, il s'agit des infirmiers et des administratifs. Nous avons déjà à l'époque négocié longtemps avec le secteur des infirmiers et administratifs. Nous avons à cet effet aligné 5 092 personnes dans ce secteur. Nous avons donné un accroissement de la prime de 100 000 francs à donner par palier. Nous allons encore faire des énormes efforts. Il faut savoir que l'exercice budgétaire qui va arriver 2022, des discussions ont commencé dès le 2 août et tous les secteurs concernés sont invités pour échanger avec le gouvernement.
Et monsieur le ministre, je vous remercie.
Également, je vous remercie, monsieur le journaliste.
C'était l'invité de Radio Okapi, le ministre de la Santé publique, le docteur Jean-Jacques Mbungani, interrogé pour nous par Jean-Pierre Elali Koko. Et c'est la fin de cette édition. émission d'information. Merci d'avoir écouté. Merci infiniment à Élisée Tikota qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale d'Alain Irungmushige. Retrouvez cette édition sur www.radiokapi.net et sur les différentes plateformes numériques de Radio Okapi. Dans un court instant, vous suivrez l'actualité sportive, le rendez-vous des Kanish Mukongo, Fwani Kizi. Maintenant, il est 12h20.